Moi, c'est Maïté Samuel-Leduc et voici Face cachée, une nouvelle série de podcasts produite par Radio Gaspésie. Face cachée, c'est des rencontres, mais c'est surtout des moments avec des gens qui me partagent leur métier ou leur passion qui sortent de l'ordinaire. La série est d'abord disponible en ligne sur radiogaspésie.ca, puis elle est diffusée tous les mercredis 20h sur les ondes de Radio Gaspésie. Aujourd'hui, je vous dévoile la face cachée de Jacques Chartier. Vous connaissez peut-être sa voix parce qu'il a travaillé longtemps à Radio Gaspésie. Mais là, je vais parler au mordu de plein air qui s'implique dans toutes sortes de projets de développement régional. C'est drôle parce que quand je suis arrivée à Gaspé, c'est lui qui m'a donné ma première chance au micro. Puis c'est là que j'ai découvert qu'il passait 1 à 2 heures chaque midi à faire du vélo ou du ski de fond. Un vrai sportif. Comme il ne peut pas tenir en place, je l'ai rencontré en montant le Mont-Albert, un des plus hauts sommets du parc de la Gaspésie. Jacques Chartier, on est où présentement?
Bonjour Maïté, on est au coin de Bécosse et Gros-Pierrier, presque arrivé au sommet du Mont-Albert. Seul endroit sur la montagne où il y a une congestion de temps à autre. Un petit névralgique, parce que les gens profitent de la salle de bain, ça brite un peu, rajoute une pleure parce qu'en haut, il va venter. Avant d'être un vrai Gaspésien, je venais déjà ici. J'avais découvert et la Gaspésie et cette chaîne de montagnes intérieures, très peu de gens connaissent finalement. Quel beau trésor caché! Donc, dans la vingtaine déjà, je venais au moins 2 fois par année. Ça fait 40 quelques années de ça, là, donc ça te donne une approximation de mon amour de Albert.
On est dans un contexte spécial parce qu'on est à la 4e traversée de la Gaspésie, en randonnée pédestre, la traversée de la Gaspésie à Bottines. Toi, tu es là depuis les tout débuts, je crois.
Il ne faut pas le dire à personne, mais moi, je les ai toutes faites. À ski, à vélo et à Bottines. Ça a commencé. C'est vrai que c'est une idée de Claudine. On s'en allait faire la TDL. Il y avait le Dr Petri et il y avait Jean-Daniel. Donc, Claudine dit, on pourrait organiser la 25e de la TDL à Gaspé. Donc, dites ça aux organisateurs, vous qui allez passer une semaine avec eux. Et puis, on avait vendu l'idée, puis c'est un peu comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis un peu au fait. Et puis, j'avais participé aux premières réunions pour savoir, bon, on passe par où, est-ce qu'on passe par le côté de la mer, est-ce que c'est trop venteux et tout ça.
Puis, à quand remonteraient tes premières randonnées?
Les premières randonnées, un peu, par exemple, pour quand j'ai rencontré des gens qui m'ont fait découvrir le marathon canadien.
On parle du marathon canadien à ski.
À ski, oui, oui. Ou les fameuses TDL, que j'ai commencé à faire les TDL en 78. Je peux te donner un peu une idée. Le Dr Petri était là, mais il était encore médecin français, là. Il travaillait à Nancy à l'époque. C'est grâce à lui si j'ai découvert ça.
Est-ce que c'est le ski qui est venu en premier dans tes passions pour le plein air?
Écoute, mon premier dada, ça a été le canot, à cause justement des scouts. Et puis, avant de m'acheter un vrai vélo, là, je me suis acheté un canot. Avec quelques amis, on changeait de rivière, on changeait de lac, et puis on organisait des sorties comme ça, du canot camping.
Ça, c'était dans quelle région?
Dans la région de Saint-Hyacinthe. Donc, canot, j'avais cette expertise-là, et je travaillais l'été comme guide pour la pêche à la truite dans le parc des Laurentides. Donc, je passais mes journées en canot. Donc, les gens du cégep de Saint-Hyacinthe qui ouvraient ont dit « Ah, tu es bon en canot, tu connais ça, tu vas donner un cours de canot. » Et j'ai enseigné le canot à Bernard Voyer. Et donc, Bernard, c'est un très bon organisateur, puis il organisait plein de trucs qu'il offrait au cégep. Donc, avec lui, j'étais comme son appariteur, parce que j'avais déjà à l'époque un Volkswagen. C'était comme la grande valise dans laquelle on mettait les sacs à dos, les vélos sur le toit, puis on organisait plein de trucs pour le cégep avec des groupes. C'est un peu comme ça que ça a commencé.
Jacques adore le canot, la randonnée, le vélo aussi, mais il m'a confié qu'une de ses passions, c'est le ski de fond. C'est vraiment un excellent skieur. Moi, je me considère assez rapide, mais quand je le croise au centre de ski, je suis jamais capable de le rattraper. Ça fait vraiment longtemps qu'il en fait, puis quand il a commencé, il y avait des drôles de pratiques.
À l'époque, là, écoutez, des skis de fond, là, on a connu l'époque où on modifiait des skis alpins pour faire des skis de fond, là. Ou des skis vraiment très anciens taillés dans une planche. On donnait la forme, la cambrure en y mettant une brique ou une bouteille de bière. Ça dépendait si c'était religieux ou pas qui s'occupait des skis, là.
Attends un petit peu, là, une brique ou une bouteille de bière?
Pour garder la cambrure entre les deux planches, sinon la planche était droite. Parce que c'est mécanique, un ski, hein? Il faut pouvoir glisser. Donc, il ne faut pas que ce qui adhère sur la neige traîne dans la neige. Donc, c'est pour ça qu'on a la cambrure. Donc, et l'hiver, quand tu entreposais tes vieux skis de bois, ben, tu mettais quelque chose entre les deux pour garder la cambrure. On est devenus de très bons skieurs parce qu'on connaissait absolument rien là-dedans. Et les premiers sont allés suivre des cours auprès des Suédois, des Finlandais, des Norvégiens. Et ils sont revenus et ils ont partagé ça. Et Bernard Voyer a été un des premiers. Bernard est top niveau, tant au Québec qu'en Europe, là, pour le ski. Donc, j'ai appris le ski avec lui. Là aussi, j'étais son appariteur. Souvent, on allait organiser des stages. Donc, j'apprenais en même temps qu'il enseignait. Et on skiait ensemble presque toujours. Donc, l'hiver, c'était ça. Et on avait des bons amis comme Louis Grenier. Louis Grenier, c'est Canuck. Louis étudiait à l'école textile, qui est un pavillon du cégep de Saint-Hyacinthe. Et on disait, oui, on s'en va jouer dehors. Non, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Va t'en faire une doudoune. Va te faire ci. Va te patenter ça. Donc, merci à Louis Grenier. Je lui ai dit bien souvent parce qu'il nous a fait découvrir les joies de l'hiver. On a arrêté de geler parce qu'avant, là, on utilisait le matériel de l'armée. C'était souvent en laine. Il ne voulait pas de synthétique parce qu'il trouvait que c'était trop inflammable. Donc, c'était lourd. C'est vrai que ça faisait la job, mais c'était lourd. Et puis, une chemise de laine mouillée, là, c'est mouillé longtemps. Là, hein? Même si mouillé, c'est chaud, là, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Ouais.
Jacques a l'air de s'amuser comme ça, mais il travaille super fort depuis qu'il est tout petit. C'est un petit gars de Saint-Hyacinthe qui a été élevé sur une ferme avec ses frères et sœurs puis qui n'a pas eu le choix de mettre la main à la pâte très jeune pour aider sa famille.
Notre premier training, là, notre premier entraînement, notre première découverte de l'effort puis du plaisir de ce que ça peut représenter, l'effort, c'est de travailler sur la ferme. Parce que les parents disaient, on rentrait de l'école puis nous envoyaient travailler. Ma mère nous préparait une collation puis elle disait, bon, là, ce qui vous attend, il y a ça à faire. Vous devriez en avoir pour 2 heures. Ensuite, vous rentrez, vous faites les devoirs, bon, on va se coucher. T'sais. C'était un peu ça. Puis les fins de semaine, c'était non-stop. Là. C'était,
vous avez dit sur la ferme.
Oui, c'est tout à fait.
Vous êtes combien de frères et sœurs?
J'ai 4 frères, 4 sœurs. Donc, 9 au total.
Après ses expériences en plein air, Jacques se retrouve derrière le micro puis la caméra. Avec sa belle voix grave radiophonique, il a travaillé pour différents médias dans le coin de Montréal. Puis, cette année, un peu, de vivre dans ce coin-là, alors il décide de changer d'air puis d'adopter la vieille capitale.
Donc, en sortant de mon cours de géographie, j'ai pas trouvé d'emploi vraiment tout de suite. Et j'ai cette grosse voix depuis longtemps. Et puis, assez que vers 7-8 ans, les gens disaient « Oh, il va sûrement travailler à la radio, celui-là. Hein? » Et puis, quand tu te fais dire ça, veux pas, enfant, t'es influençable, donc t'essaies de bien perler. Hein? Ma mère m'encourageait aussi en disant « T'as une belle voix, tu devrais t'efforcer d'articuler davantage et de bien parler. » Donc, à force de se faire dire « celui-là, il va aller à la radio », quand j'ai été mal pris, je dis « bon, je vais aller voir si je peux faire quelque chose à la radio ». Et à Saint-Hyacinthe, je me pointe là, et puis je passe l'entrevue, et puis là aussi, ils ont dit « écoute, la semaine prochaine, tu vas commencer à faire du micro, on va aménager un créneau ». Et j'ai appris le métier. Ah, ça a été... oui, c'est ça. J'ai vraiment appris à Saint-Hyacinthe, dans une radio qui ressemble à Radio Gaspésie, finalement. Mais c'est une radio locale. Vous avez travaillé dans les médias. Ma chère Maïté, vous savez que ça peut être éphémère. Hein? Donc, je suis allé travailler à Québec. Donc, j'ai travaillé avec André Arthur, imagine. Et les week-ends à Québec, à CJRP. Et puis là, André Arthur a eu la mauvaise idée d'acheter une station de radio, puis il est parti avec tout le staff. Donc, c'est JRP, c'est pour ça que vous ne voyez plus la station a vivoté pendant quelques années, puis ils ont dû fermer. Et puis moi, j'étais un des derniers à arriver. Donc. Mais j'avais quand même l'idée de changer de région. L'autre projet, c'était de changer de pays, mais ça, hein? On verra.
Jacques n'a peut-être pas changé de pays, mais il a travaillé dans plusieurs types de médias, puis même à la télé.
J'avais une émission qui s'intitulait « Les jeunes aventuriers » à Canal Famille. Oui, à Montréal, vous pouviez me voir la bête tous les soirs parce que c'était rediffusé à plusieurs reprises. Je travaillais aussi pour Télé-Québec. Je faisais des reportages sur les équipements de plein air. Mais je trouvais ça, entre vous et moi et la boîte à bois, très anxiogène. Et je détestais vivre avec toujours cette pression de « bon, ce soir, je suis à la télé, 1 million d'éditeurs. » Ou ça, non. Et puis, je me suis dit « j'aimerais ça aller travailler ailleurs ». J'ai cette émission des jeunes aventuriers. La réalisatrice nous dit on a de la difficulté à trouver des jeunes qui sont aussi intéressants, captivants, puis qui ont des aventures à raconter. Donc, on va faire une pause et puis on ne sait pas si, ça va, si on pourra reprendre. Donc, moi, je suis à ski au printemps avec Claudine, hein, parce qu'on a fait une traversée en 80. On avait obtenu du parc l'autorisation de faire presque une semaine de sommet en sommet ici. On avait un rapport final à remettre pour le parc pour voir si c'était possible, si c'était rentable, si c'était envisageable et tout ça. Donc, pendant ce temps-là, j'ai dit à Claudine, si jamais tu trouves quelque chose au niveau des communications, j'opterais, je ferais un petit séjour, ne serait-ce que quelques années à Gaspé. Et finalement, elle m'appelle pour me dire « Le Morning Man vient de démissionner à Gaspé, tu peux appliquer. » Je suis passé pour faire une entrevue le jeudi, je commençais le lundi. Alors, j'avais de bons copains.
C'était le début de l'épopée de Jacques à Gaspé. Il s'est fait prendre, il est resté plus de 10 ans à Radio Gaspésie. Il fait même encore des collaborations. Pendant la TDLG, il appelle à chaque jour à la station pour faire un résumé de sa journée. On était presque rendu au sommet du Mont Albert quand Émilie Gagné à la radio l'a appelé.
J'aime pour la non-sportive que je suis de parler avec Jacques Chartier. C'est toujours stimulant parce que vous avez toujours des choses très intéressantes à nous raconter, Jacques. Et là, cette semaine, vous êtes à la TDLG à Bottine et vous êtes au Mont Albert aujourd'hui.
Oui, pas tout à fait au sommet. Émilie, je te salue. Bonjour tout le monde. Je vais partager un peu ce qui se passe au sommet ou presque. Donc, une journée un peu maussade, mais finalement qui a été bien agréable. Et nos marcheurs ont très bien performé parce que ceux qui avaient opté pour le circuit du Xalibu, on devait rentrer au gîte à pied. Il y avait encore un 7-8 km, un 7.8 là. Et puis, la grande majorité l'a réalisé, ce qui fait qu'au total, ils ont parcouru 20 km, ce qui est très bon. En montagne, c'est vraiment beaucoup là.
Donc, surtout avec les conditions que vous avez eues.
Oui, c'est ça. Et puis là, on a déplacé la journée parce qu'aujourd'hui, on nous prévoit quand même une journée assez agréable avec des percées de soleil. C'était couvert, ça s'est découvert. Au sommet, avec les talkie-walkie, on sait que ça s'est dégagé. C'était complètement bloqué tout à l'heure, il pleuvait, mais là, ça se dégage. Donc, on va profiter du sommet, puis on va redescendre, certains par le chemin de la montée, et les autres par la grande boucle qui passe par la cuve des patrouilleurs. Toi, tu t'entraînes maintenant, Émilie, là, tu vas pouvoir prendre ma place bientôt, là, hein?
Oui, bien, il va falloir que je mette des kilomètres à mon millage parce que justement, je prenais des informations sur la Bottine et sur le site de la TDLG, on a des experts qui peuvent conseiller et on disait que pour être capable de faire de faire cette semaine-là, il fallait avoir fait X nombre de kilomètres. En fait, pendant l'été, il fallait avoir fait au moins le nombre total de kilomètres qu'on allait faire pendant la semaine à la TDLG, ou en tout cas quelque chose dans ce genre-là. Mm-hmm. Et j'étais pas encore rendu là, mais peut-être que les prochaines éditions, vous pourriez me coacher pour les pas l'escalade, mais pour la randonnée, et peut-être même un jour, qui sait, pour le ski de fond.
Bien, tout à fait. Elle est polie, hein? Plutôt que de me tasser littéralement en disant, je le ferai avec toi pour mieux te tasser par la suite. Non, c'est bien, Émilie. Ça sera avec plaisir.
Parce que je connais mes compétences en ski, Jacques, donc
rien
à craindre.
C'est pas une cause perdue.
Jacques, on va pouvoir vous reparler dans les incontournables avec Yannick un peu plus tard cet après-midi. Et nous, on va se retrouver même heure, même poste demain pour faire le suivi de vos péripéties.
Ça sera avec plaisir, Émilie. Bonne journée, tout le monde.
Bonne journée, Jacques.
Bye bye.
C'est un départ, Jacques?
Oui, on a ramassé notre bardeau, on n'a rien oublié.
Leave no trace, on ramasse les papiers autour. Toujours cette conscience de l'encadreur.
Tout à fait, oui, c'est vrai, c'est important. Et puis, je suis un peu distrait.
On a parlé de randonnée tantôt, parce que bon, on a parlé de Jacques, le canoteur, le fondeur, le randonneur. Tu as travaillé sur le Sentier international des Appalaches. C'était quoi ton rôle par rapport au sentier?
Signalisation, cartographie et communication. Il y avait des rapports qu'on devait préparer, s'assurer qu'il y a des archives.
Tu as travaillé longtemps avec le SIA?
2 ans. Excusez-nous, là, on recommence à monter, fait qu'on est essoufflés.
on va peut-être même être obligé de prendre une pause parce que c'est le Mont-Albert quand même. Oh,
c'est le Mont-Albert. Et puis surtout, quand on reprend notre souffle, là, il y a une petite période d'acclimatation.
Faut rencontrer Constance.
Oui, c'est ça. Cherchons Constance, Maïté.
Bon.
J'ai l'impression que Constance sera plutôt bien assise en haut.
Ouais.
Qu'en penses-tu?
Moi aussi, je pense.
Ouais. Parce que sinon, ça risque d'être très long et peu intéressant. Ils vont penser qu'on est mourant.
Alors, on est arrivé au sommet de Albert. C'est tellement magnifique. Toujours surprenant, ce plateau, les montagnes. Puis cette fois-là, en plus, il y avait même des caribous qui sont passés juste avant nous. Incroyable!
On change on change presque de région. La pierre est différente. Et puis là, il y a une belle vallée là, qui se creuse, qui se forme. Il y a un beau cirque glaciaire. Il y a cuve des moniteurs. Là. Donc, c'est vraiment une belle région.
Qu'est-ce qui va être à surveiller là, pour les prochains kilomètres?
Là, on bouscule pas les gens. On veut leur laisser... On leur a laissé jusqu'à une heure. Parce que la descente par là où nous sommes montés, là, c'est abrupt, mais c'est plus rapide. Parce que de l'autre côté, c'est un vrai gros pierrier à blocs ronds. Là. Il faut vraiment, pendant une heure, c'est une descente en choisissant son caillou sur lequel tu vas poser le pied. Il faut le faire. Et on sécurise un peu avec les bâtons. De temps à autre, c'est le bâton qui se coince, qui risque de te jeter par terre. Là. Mais non, c'est intéressant. J'aime bien ce secteur, ouais. Ça ajoute au plaisir.
On a on entend des gens qui sont super contents d'avoir fait le sommet.
Oui, bien motivés à attaquer. Je ne sais pas trop quel côté, mais de toute façon, ils ont la motivation pour faire à peu près n'importe quoi. Là. Ils feraient du deltaplane.
Pour Jacques, la famille, c'est super important. C'est le deuxième garçon d'une famille de 9 enfants, puis c'est le seul qui vit en Gaspésie. Mais ça ne l'empêche pas de voir ses frères puis ses sœurs assez souvent puis de les inviter à faire toutes sortes d'activités. D'ailleurs, son frère Gilbert, qui est physiothérapeute, puis son frère Simon, qui est encadreur comme lui, était avec lui à la traversée à bottines.
Quand c'est ça, on a perdu notre père tôt. Fait que les grands frères, on essayait de jouer un peu un rôle de grand frère, mais t'as pas l'expérience, t'as pas le vécu, t'as pas... souvent, maman disait... écoutez, là, vous êtes des grands frères, essayez de donner au moins l'exemple. Puis, vous devriez amener les plus jeunes. Donc, on a toujours eu cette notion de partager au moins avec les plus jeunes là, les expériences qu'on vivait. Puis, c'est le fun. Puis c'est des bonnes personnes. Donc, c'est facile dans ce temps-là. C'est une question de personnalité, ça. Hein, on n'est pas obligé, on choisit nos amis, on choisit pas nos frères et sœurs, mais quand ça clique, puis on adore ça. Surtout avec Simon, on parle beaucoup technique, puis comment tu t'habilles, pour tout ça. J'ai vu un nouveau vêtement, un nouvel équipement, puis on aime bien ça, placoter de ça. Gilbert, c'est d'autres choses, on est voisins, on a des chalets en Mauricie. On avait une autre vie avant la Gaspésie. Donc, moi, je construis une petite cabane en Mauricie que j'ai toujours, puis Gilbert, c'est mon voisin. Bon, le grand frère a influencé une fois de plus la plus jeune qui s'est installée. Ben, je l'ai un peu chassé de chez moi. Il était toujours rendu dans mon chalet. Puis j'ai dit, écoute, Gilbert, c'est des terrains de la CEPAC, ça. On demande un permis, puis on va construire un chalet. Et puis donc.
Alors moi, c'est Gilbert. Je suis le sixième de 9.
Alors c'est toi le petit frère qui a construit un chalet à côté de chez lui, c'est ça? À côté de son chalet à lui?
Oui, à côté du grand frère. Et puis, ça fait presque 35 ans qu'on a nos cabanes, une à côté de l'autre, près d'un lac magnifique en Mauricie. Et puis, encore là, deux styles très différents. Donc, Jacques, qui ne voulait même pas l'électricité ni les toilettes. Alors, lui, une bécosse, toujours, encore, après 35 ans. Moi, bon, qui ai fait un solage bétonné, puis de l'électricité, puis l'eau courante, et puis le téléphone, tiens, tant qu'à ça. Alors que Jacques, non, c'est la plein air, c'est la nature, c'est la simplicité, le minimum pour être confortable. Et sa cabane est appréciée par plein de gens qui y vont, là, pour ce côté rustique-là. Alors que moi, bon, c'est plus le luxe. Il aime bien quand même venir prendre une douche chez moi. Alors moi, c'est Gilbert, je suis le sixième de 9. Jacques, c'est un gars de plein air, comme ça m'a surpris qu'il le soit. Dans mon enfance, moi, je voyais mon frère Jacques qui fumait, qui sortaient, qui s'amusaient, dansaient et tout. Et puis, je pense qu'il y a eu une piqûre à un moment donné pour être guide dans le parc de la Jacques-Cartier. Et je pense qu'il y a eu la piqûre du plein air. Et de l'exercice de jogging, là, moi, j'avais commencé à en faire. Lui, il a commencé à en faire après moi, mais de façon beaucoup plus intensive. Et si j'avais à décrire Jacques, c'est l'intensité. Alors, Jacques, c'est le jogging, c'est les courses. C'est le vélo, c'est les courses. C'est le ski de fond, c'est les courses. C'est toujours très intensif. Alors, je ne peux pas faire de sport avec lui. On n'a vraiment pas le même rythme de vie quand on est en sport tous les deux. Mais je ne le vois jamais sur les pistes parce qu'il est beaucoup trop rapide. Et j'ai découvert avec la TDAG que je suis le skieur le plus lent du Québec.
Contrairement à Jacques, qui est un des plus vite, peut-être?
Disons, s'il n'est pas le premier, il peut être le deuxième, mais c'est un méchant chevreuil, oui.
Alors, moi, c'est Simon, Lucky Seven.
Donc, un grand frère sur les pistes avec toi. Il ne dit pas trop quoi faire?
Avec le temps, on a appris. Hein? On a appris. J'ai lâché mes bas de coton.
Justement, le voilà. Allez, voilà, les trois frères ensemble. Non, non, mais j'aurais voulu ça, j'aurais pas pu.
Ouais. Oui. Oui. Allez-y, parce que ça risque d'être long, là. Ah oui, tiens, prenez une photo. Prenez une photo, mademoiselle. Voulez-vous prendre une photo, s'il vous plaît? Parce que là, par contre, en contre-jour, vous êtes obligé d'aller là, madame, mademoiselle.
Oh, non, pas encore marcher plus longtemps.
Tiens, oui, parce que sinon... Ne prenez pas par ça ici, ça l'éteint, ces boutons.
Ils sont vraiment drôles, les trois frères. C'était vraiment une belle rencontre que j'ai faite sur les sentiers. Jacques Chartier n'a pas fini. Il y a plein de projets encore qu'il veut réaliser. Puis je pense vraiment pas qu'il est prêt à s'arrêter.
Veux pas, on approche la 70aine, là, donc... Et c'est la retraite. La retraite, c'est une bébite très agréable et délicate à apprivoiser. Les Français ont une belle expression parce qu'ils disent quand on a les dents, on n'a pas le pain, puis quand on a le pain, on n'a plus les dents. Donc, c'est-à-dire que... là, on a du temps, mais il faut faire attention à nos moyens. On a envie de voyager, on a envie de faire plein de choses, on veut réaménager plein de choses, reconstruire. Il faut faire attention au budget, donc il faut se garder une partie travail pour avoir un peu de sous complémentaires. Donc, les projets... tu vois, ce printemps, je suis allé marcher au Portugal pendant 3 semaines. Ils ont bien développé, hein, avec Compostelle, qui est finalement peut-être près l'ancêtre du tourisme. Hein. C'était une motivation religieuse. Mais depuis toujours, ils accueillent les gens pour un peu de frais. Et tout est bien organisé. Donc, c'est pour ça que c'est si populaire. Dans l'Europe, à peu près tous les chemins mettent à Compostelle, à Saint-Jacques, priez pour nous. Donc, on était dans le sud du Portugal. On s'est baladé pendant 3 semaines. Et puis, donc, le mois d'avril en Gaspésie, c'est moins drôle. Parce qu'on ne sait pas trop dans quelle saison on va se retrouver le lendemain matin. Hein? Et puis quand il y a de la neige, elle n'est pas intéressante à skier. Puis en tout cas, ce type de petits projets qui sont en fonction de mes moyens et continuer à travailler un peu parce que c'est pour le plaisir de le faire. J'ai appris à trouver ce qu'il y a de positif dans tout dans la vie. Parce que quand on est animateur à la radio, qu'on accompagne les gens, il faut savoir trouver ce qui est positif et non essayer de trouver la bébête noire puis de trouver ce qui ne fonctionne pas. Donc, il y a déjà, les bulletins d'information sont presque là pour ça, là, de faire relever les coins qui retroussent puis les drames, tandis qu'en animation, c'était mon leitmotiv. Tu arrives au micro le matin, il pleut, il fait frais, il vente, il y a des accidents, des collisions. Il faut que tu essaies de trouver, premièrement, d'avoir un ton qui n'est pas à la catastrophe. Et puis, c'est ce beau métier qui m'a amené à être positif, à m'efforcer d'avoir des aptitudes au bonheur parce que finalement, je suis plus un inquiet. Hein? J'ai l'air d'un grand rigolo comme ça. Non, je suis plus un grand timide inquiet. C'est ce qui me définit mieux.
C'était Jacques Chartier, passionné de plein air à Gaspé. Merci d'avoir été à l'écoute de Face cachée, une série produite par Radio Gaspésie. Au montage, Alex Pelletier, à la réalisation et à l'animation, Maïté Samuel-Leduc.